J'aime beaucoup l'intermède musical de l'émission. Ça permet un peu de danser. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs en studio. Ça, c'est le petit truc que je vous dévoile. Il y a Jean-Christophe qui me regarde à la réalisation avec des gros yeux. Il dit, dis pas ça, Catherine. Non, faut pas dire des secrets comme ça en studio. 11h06, merci d'être là en ce beau lundi matin. J'espère que vous allez bien. On va parler tout à l'heure avec la nutritionniste Stéphanie Côté parce que je vous le rappelle, l'émission change un peu. Quelques petits changements ici et là de nouveaux collaborateurs. Et à tous les lundis, on va recevoir un expert dans différents domaines qui va pouvoir répondre à vos questions, vous donner également des conseils. Donc aujourd'hui, on parle de nutrition et je pense que le sujet est assez à propos. On mange quoi quand il fait chaud? Ça a l'air bien niaiseux de même, mais poser la question, on se casse la tête beaucoup. Puis il y a autre chose que le fameux barbecue là, qui fait 40 degrés. Tu fais cuire ton poulet pendant une heure, tu es en sueur. Donc, il y a d'autres choses à manger. Donc, Stéphanie Côté sera avec nous. Et tout d'abord, Richard Thérien, que vous entendez maintenant le matin.
Allô,
Catherine. Puisqu'il faut se lever. Comment
oui.
ça se passe le matin, mon cher
ça
Richard?
Ça va bien, ça va bien. Je suis pas habituée de me lever tôt comme ça, mais bon, on s'y fait.
On peut te lire, évidemment, dans le journal Le Soleil, collaborateur également au 98.5, dans Les Accros également, qu'on a oui. pu t'entendre avec Paulo des Thérèse Parisien cette année. Et là, je trouvais le sujet intéressant parce que j'en ai vu beaucoup, moi, cette année. J'en ai parlé également de tous ces documentaires, ces séries sur les tueurs en série, notamment Ted Bundy, qui a beaucoup fait jaser. Vous avez eu, bon, la série documentaire, vous avez eu le film très médiocre, d'ailleurs, je dois dire. Vous avez eu d'autres séries également sur, bon, la résolution de crimes, sur les meurtriers, oui, mais sur comment, justement, une enquête se forme. Il y a ma collègue Monique Néron, à qui on va parler tout à l'heure, qui, elle, a produit Le Dernier Soir, une série documentaire qu'on peut voir sur tout.tv sur une enquête de 1975 non résolue au Québec, à Longueuil notamment. Et moi, je me posais la question, mais pourquoi on est aussi fasciné par ce genre de série? Toi, Richard, est-ce que tu en écoutes premièrement de ce genre de série?
J'adore ça.
Ah oui?
J'adore ça. Oui, oui, oui. Je pense pour la même raison que les polars, mais je ferais une distinction entre la fiction puis les histoires vraies. Parce que la fiction, on regarde ça avec délectation, on a hâte de voir qui est le coupable et tout ça.
Il y a un punch.
Oui. Dans les histoires vraies, qui sont montées aussi comme des fictions, hein? On reprend les codes de la fiction dans ces séries-là. C'est vrai. Donc, il y a la compassion qui s'ajoute à ça. On regarde pas ça avec délectation. Peut-être la curiosité, oui, mais je pense pas que ce soit du voyeurisme. Les histoires sont vraies. Les criminels n'ont pas été trouvés. Alors, on regarde ça avec l'espoir que ça soit réglé. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans l'amour des gens pour ces séries-là. Moi, ça a commencé avec Making a Murderer sur Netflix.
Qui a été un gros, gros succès.
Gros succès.
Et qui a amené à des changements aussi.
Absolument. Puis que tu regardais, moi, je sortais bouleversé de chacun des épisodes, là, parce que... Puis là, tu prends pour l'un. Ah, finalement, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être l'autre. C'était très bien amené, là, comme série. Mais je pense que c'est beaucoup pour ça, ouais.
Et dans les séries, justement, qu'on a pu voir dans la dernière année ou dans les deux dernières années, il y a par moments, j'ai trouvé le côté charismatique du meurtrier qui ressortait quand même beaucoup.
Ouais.
Là, je fais référence surtout à Ted Bundy, mais même aux autres, là, Charles Manson, quelqu'un qui personnifie ou également un gourou de secte. On revient beaucoup sur « Ah, il est beau, il s'est attiré les femmes ». Et on en vient pratiquement à avoir un sentiment pour ce fameux meurtrier-là. Et moi, c'est là que ça me dérange, l'espèce de glorification.
Moi, ça me dérange beaucoup, ça. Moi, je ne suis pas capable d'embarquer là-dedans. T'sais, même si je serais tenté, là, on le fait dans la fiction, hein? Les personnages de criminels et de méchants, et de regarde, la série sur la politique là, sur Netflix.
House of Cards,
voilà. Ouais. Ben, ça en est un bel exemple. Les gens aimaient beaucoup le personnage principal. Mais quand c'est la vraie vie, je suis pas capable d'en faire un héros comme ça. Moi, ça me met mal à l'aise, ça, j'avoue. Ouais.
Et on pose la question aux auditeurs, d'ailleurs, est-ce que vous écoutez ce genre de série? Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? 514-790-9850 et de partout au Québec, parce que, bien sûr, vous êtes aussi en Estrie au 107.7 et aussi en Outaouais au 104.7, 1-866-790-9850, 1-866-790-9850. Et ça a commencé, Richard, beaucoup aux États-Unis où ça a été très populaire, ce genre de série. Et là, au Québec, on commence à en avoir aussi.
Oui. Alors, il y a Le Dernier Soir de Monique Néron que j'ai adoré. Moi, j'ai vu au complet. J'ai trouvé que c'est une excellente série. C'est très bien fait. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y en a une sur Club Illico qui s'appelle Meurtrier sur mesure. Et c'est l'histoire de deux hommes qui ont été emprisonnés par erreur pendant 10 ans pour le meurtre d'une jeune fille de 14 ans à Val-d'Or. Donc ça, c'est en train de se faire en ce moment. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être disponible. Il y a une autre série pour Canal D qui s'appelle « Sur les traces d'un tueur en série ». Donc tranquillement, là, on a nos propres... Parce qu'on en a des histoires comme ça là, au Québec. Là. C'est pas juste aux États-Unis puis ailleurs. Là. Il y en a ici des meurtres non résolus. Là. Puis quand on regarde le dernier soir puis qu'on voit les méthodes de la police à l'époque... Là, on se dit, je comprends pourquoi ça n'a pas été résolu. Là, ouais. Parce que, franchement, aujourd'hui, heureusement, c'est plus comme ça. Puis j'étais content de voir dans la série de Monique que la police d'aujourd'hui collabore, puis répond aux questions quand même, là, aux questions qu'elle peut répondre. Mais quand tu regardes ça à l'époque, là, ça fait peur un peu.
Bien, ça fait peur, puis on peut comprendre pourquoi, justement, comme tu disais, c'est pas résolu. Et en même temps, on peut se poser des questions sur les façons de faire de peut-être d'autres enquêtes également qui ont été malmenées. Et ça, peut-être qu'il y aura une saison 2 du dernier soir et peut-être une troisième, parce qu'il y a quand même des questions sans réponse également. Et on va en parler après la pause avec Monique Néron. Mais avec cette proximité-là quand même au Québec, est-ce que aux États-Unis, c'est quand même grand? Puis quand c'est en France, on dit « Ah, oh, ben c'est loin... » Mais ici, au Québec, de parler de ce qui se passe chez nous, au Québec, on a cette proximité-là quand même plus grande. Tu peux rencontrer une victime à l'épicerie, ce qu'on ne peut pas faire, généralement, en tout cas aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas ce danger-là d'être trop près, justement, de l'histoire, trop près du...
J'y pense parce que en regardant Le Dernier Soir puis d'autres séries du genre, tu te dis, les familles vivent ça en ce moment-là. Puis même une fois que la série est diffusée, ils sont encore là-dedans, eux. Alors, ça risque de bouleverser plein d'affaires chez eux. Puis... au moins, c'est bien fait. C'est fait avec respect. Je pense pas qu'il y ait de sensationnalisme ou de vouloir faire de la bonne TV à tout prix. Oui, ça fait de la bonne télévision, mais je pense qu'il y a toujours cet esprit de respect. Puis ils font les choses en accord avec la famille. Ça, je pense qu'il va falloir que ça reste dans l'élaboration de ces séries-là. Il faudrait pas qu'on aille justement, là, qu'on succombe à la tentation là, de juste faire de la bonne TV pour faire de la bonne TV, puis qu'on néglige les gens qui vivent pour vrai là, ces drames-là. Là, c'est pas de la fiction. Et eux, leur quotidien, c'est ça. Là. Ils ont perdu quelqu'un il y a 20-30 ans. Ils savent pas pourquoi, puis ils sont tristes. Alors, faut être prudent là, dans ces moments-là.
Mais s'il y en a beaucoup, il y a une certaine compétition qui peut s'installer.
Oui.
Il y a peut-être certains réseaux qui voudraient peut-être pousser un peu plus loin.
Oui.
Il n'y a pas de danger là-dedans.
Ben, il faut tout le temps rester vigilant. Et puis poser ces questions, soulever ces questions-là à chaque fois. Moi, je pense que c'est le rôle des journalistes de le faire aussi. Et c'est le rôle des gens qui font ces documentaires-là aussi de faire attention, là, de ne pas succomber à ça. Ça serait vraiment dommage. Tu sais. Puis je ne sais pas les séries américaines qui ont été faites, si ça a été fait dans cet esprit-là, mais moi, ça me semble que oui. Tu sais. Il y a une série qui s'appelle The Keepers, je ne sais pas si tu as vu, sur une religieuse dans les années à la fin des années 60 qui a été assassinée à Baltimore, puis il y a deux femmes qui étaient à son école à ce moment-là qui ont décidé de passer leur retraite pour retrouver, pour élucider ce meurtre-là. Puis c'est tellement beau à voir ces deux femmes-là là, qui consacrent tout leur temps pour cette religieuse qu'elles ont idolâtrée puis qui était gentille avec elle, puis qui était une bonne pédagogue, une bonne enseignante. Fait que moi, je trouve que dans ces moments-là, c'est quand même une question de compassion puis de bons sentiments.
De communauté aussi,
oui,
de pouvoir
oui.
Déceler. Et la question se pose, et peut-être si vous êtes enquêteur ou dans un corps de police, vous allez peut-être pouvoir me répondre à cette question-là, mais comment des journalistes, des personnes qui ont des retraités, qui n'ont aucune expérience en la matière, peuvent arriver à une conclusion qui n'est pas arrivée au corps policier?
Ben là, c'est souvent malheureusement des cas de corruption ou de gens qui ont intentionnellement caché des preuves. Ou c'est souvent ça qu'on finit par comprendre dans ces cas-là. C'est pas toujours ça, mais c'est souvent ça. Puis ça, c'est décourageant là, parce que comme tu dis, comment ça que des journalistes, des gens qui font jamais d'enquête dans leur vie réussissent à aller plus loin que la police là? Là, t'en as une nouvelle preuve que... C'est sûr que toutes ces séries-là, ça donne pas une bonne image de la police. Des fois aussi des avocats. Hein? On l'a vu dans Making a Murderer, des fois, là. Ça faisait dur de ce côté-là.
Il y en a qui se font malmener, effectivement.
Oui, oui, oui.
11h15, on s'arrête quelques instants. 514-790-9850. 1-866-790-9850. Pourquoi on est autant attiré par les séries où on parle d'enquête, de policiers, de meurtriers aussi? Qu'est-ce qui nous attire autant là-dedans? Et on va parler avec ma collègue de Puisqu'il faut se lever, journaliste judiciaire et aussi qui a mené l'enquête dans Le Dernier Soir, Monique Néron. 11h18, merci d'être avec nous au 107.7 en Estrie, au 104.7 en Outaouais et au 98.5 FM, bien sûr, à Montréal. On s'entretient avec Monique Néron, qui est journaliste, que vous connaissez, bien sûr, collègue, depuis Qu'il faut se lever, qui a mené l'enquête dans la série documentaire Le Dernier Soir, qui est disponible présentement sur tout.tv, sur les meurtres crapuleux, je vais le dire comme ça. C'est pas écrit dans le texte, là, mais je vais en mettre encore un peu plus, de Diane Derry et Mario Corbeil à Longueuil en 1975. Meurtre non résolu, et on se rend compte en écoutant la série documentaire qu'il y a eu de gros manque. Monique Néron, bonjour.
Allô.
Salut, ma chère collègue. Bravo tout d'abord pour cette série documentaire. J'ai écouté les 6 épisodes en rafale.
C'est vrai?
Oui, je me
suis
couchée tard.
C'est la première fois que tu me le dis, donc j'ai pas eu ton avis encore.
Non, c'est vrai.
Oui, tu es restée accrochée, c'est ça?
Jusqu'à la fin, j'ai un petit peu sacré à la fin, je tiens à le mentionner aussi, parce que évidemment, j'imagine qu'il y a peut-être une suite qui s'en vient. Dis-moi qu'il y a une suite, ou sinon, il va falloir que je t'appelle, qu'on aille prendre un verre, là.
Bien, écoutez, la suite, il va falloir que les policiers prennent la balle au bon, parce que rendu là, nous, on peut pas nécessairement aller plus loin. Vous aurez compris qu'on a fait le maximum là avec ce qu'on avait. On est allé quand même assez loin, je pense, pour essayer d'apporter un semblant de réponse, mais c'est sûr qu'il reste encore plein de points d'interrogation, j'en conviens, mais rendu là, nous, on peut pas aller plus loin. Donc, je sais pas s'il va y avoir une suite ou pas. Si jamais il y avait du développement, c'est pas impossible qu'on ajoute, par exemple, la suite, là, ce qui se passera et qu'on le présente, bien sûr, aux gens parce que on le sent, l'intérêt, là, l'engouement présentement. J'ai rarement reçu autant de commentaires de gens qui font, un, de l'insomnie, qui dorment pas parce qu'ils sont pas capables d'arrêter, ou deux, qui sont complètement secoués par cette histoire-là. Certains connaissaient l'histoire, d'autres pas du tout. Mais chose certaine, on sent vraiment qu'il se passe quelque chose avec Le Dernier Soir. C'est absolument exceptionnel en ce moment-là.
Mais pourquoi t'as voulu enquêter spécifiquement sur ces deux crimes-là?
En fait, c'est un crime que je connaissais pas. Dans un premier temps, j'en avais couvert des crimes non résolus à travers les années, que ce soit des disparitions non résolues ou des enfants assassinés. J'avais rencontré tellement de familles, mais Diane et Mario, j'avais jamais vu leur visage. Ils ont été ajoutés au site Internet de la Sûreté du Québec quand ils ont rebrassé les cartes un petit peu des cartons des crimes non résolus. Leur nouvelle escouade à Boucherville, ils ont ajouté des enquêteurs et ils ont mis de nouveaux dossiers sur le site Internet. Et quand j'ai vu leur visage, je me suis dit, comment deux enfants peuvent avoir été criblés de balles avec une mise en scène comme ça sur la rive sud de Montréal? Comment ça se fait qu'on n'en a pas entendu parler? Qu'est-ce qui est arrivé avec cette enquête-là? Et quand on a commencé à fouiller, on s'est rendu compte qu'il y avait la matière pour fouiller encore plus loin. Et c'est là qu'on s'est dit que c'est potentiellement une bonne histoire à raconter sur plusieurs épisodes. Et visiblement, on avait ce qu'il fallait pour.
Oui, Monique, c'est Richard Therrien.
Allô?
Allô. Est-ce qu'il est encore trop tôt ou tu as déjà eu des retours? Tu dis que tu as eu beaucoup de retours, mais des retours avec des données peut-être que vous n'aviez pas pendant votre enquête?
Des données qu'on n'avait pas, non. On n'a pas eu de nouveau par rapport, par exemple, au potentiel suspect ou autre. On sait que la police semble bouger, par exemple, auprès de la famille. On ne sait pas en quel sens, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont leur dire, mais on comprend que ça bouge un peu en termes de rencontres en personne. Et puis, ouais.
Mais ça,
puis,
c'est bon, ça.
C'était pas nécessairement le cas avant. Puis là, on sent qu'il y a un intérêt de bouger rapidement. Donc, qu'est-ce qui va. Je ne sais pas en quel sens, on le saura peut-être éventuellement, mais oui, c'est bon. Effectivement, il se passe quelque chose.
Mais de faire une enquête comme ça, évidemment, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de recherches. Pas une très grosse équipe, il faut le mentionner. Monique, là, on n'est pas aux États-Unis, là. Il n'y a quand même pas 50 personnes qui travaillaient là-dessus, là. Je t'ai vu travailler extrêmement fort parce qu'on est côte à côte de bureau tous les matins. Donc, je peux le spécifier. Mais quand tu fais ton enquête, en fait, vous partez de comment? Moi, c'est ça qui m'a intriguée parce que je me dis, vous avez fait un travail, oui, journalistique, un travail d'enquête, de recherche, un travail que les corps policiers ont manifestement pas fait, où il y a eu des lacunes.
c'est sûr qu'il y a eu des lacunes. On le voit dans la série. Là, on est à milieu en termes d'enquête policière en 1975, si on compare avec aujourd'hui. Mais plus on en découvrait nous-mêmes, plus on tombait de notre chaise. À quel point c'était contaminé, les scènes de crime et les façons de faire font en sorte que ça complique le travail des policiers aujourd'hui. T'sais, les enquêteurs, à l'époque, mettaient pas de gants, vous l'avez vu.
Oui.
Même les gens au laboratoire de sciences médico-légales non plus. Donc, on est vraiment dans une autre époque. On a commencé avec les familles, tout simplement parce que, un, il fallait leur collaboration. On voulait s'assurer qu'ils étaient confortables avec le fait de faire la série et on avait besoin de leur témoignage pour commencer quelque part. Ensuite, ça a été le quartier. Il fallait trouver, en fait, le plus de gens possible qui se souvenaient de l'affaire pour éventuellement essayer d'aller chercher des témoignages inédits des gens qui auraient, par exemple, pas été rencontrés par les policiers à l'époque. Qui a été le cas. On a trouvé des jeunes qui étaient dans l'entourage de Mario Corbeil, Diane Derry, dans l'entourage de la gang, finalement, qui se tenait dans ce secteur-là de Longueuil, et des gens qui, après toutes ces années, étaient encore profondément troublés. Mais ça a été compliqué parce qu'il y en a plusieurs qui ont été plus au pays, il y en a plusieurs qui voulaient pas nous parler pour toutes sortes de raisons qui leur appartenaient. On le voit dans la série, il y en a un qui avait même peur encore aujourd'hui de se prononcer, de parler de tout ça, et profondément, là, pas juste un petit peu, là, peur même à la limite presque pour sa vie. Ça a été vraiment ça, de partir avec les familles et ensuite de gratter tranquillement pour trouver plus de personnes possibles. Manuelle Légaré, faut que je le dise parce qu'elle est tellement extraordinaire je l'ai dit un peu à la blague au début, puis je le pensais sincèrement, à tous les corps policiers devraient avoir Manuelle Légaré qui est là à temps plein pendant des mois sur un dossier. C'est sûr que ça, c'est une richesse extraordinaire parce que même au sein d'une escouade de crimes non résolus, par exemple, même au cold case, est-ce qu'on peut consacrer autant de temps sur une seule et même enquête? Je suis même pas certaine. Sinon, les effectifs, nous, on était, 3-4, là, à graviter, à chercher, à gratter pendant plus d'une année, là, imaginez. Là. Fait que c'est énorme là, en termes d'effectifs de pouvoir se pencher sur une seule et même histoire.
Parce que les corps policiers ont aussi d'autres dossiers, des dossiers qui arrivent aussi sur le bureau. Puis à un moment donné, tu dis, bon, ben, après 45 ans, est-ce qu'il y a tant d'autres choses que je peux aller chercher? Il y a ça aussi qu'ils doivent se dire. Mais il y a quand même une fine ligne quand on fait un travail d'enquête comme ça à la télévision. Fine ligne avec les victimes, la famille des victimes. Pour eux, c'est pas évident parce que, bon, ça va rester aussi au niveau matériel. Les gens vont leur en parler aussi de cette histoire, mais aussi avec le service policier. Puis il y a une discussion à un moment donné dans le documentaire où on voit vraiment, tu as une discussion, puis le policier te dit, « Hey, Monique, tu as combien d'années d'enquête, là? » T'sais, avec un peu serré, un peu sec, on me l'en dirait, la grande, tu connais rien à ça. Puis je connais ton franc-parler, là, donc je savais un peu que ça te gênait pas, mais il y a quand même ça aussi.
Oui, puis on l'a laissé. Vous avez vu, on a tout laissé dans la série. On a laissé les gens qui voulaient pas nous parler, ceux qui étaient plus certains, et on a laissé aussi cette scène-là qui s'est passée exactement comme vous la voyez dans la série. On est en train de discuter de tout et de rien, et surtout de la police, de l'enquête de Longueuil à l'époque, et le policier me questionne à savoir, écoute, là, toi, t'as pensé à toutes sortes d'affaires, là, t'as combien d'années de police? Puis moi, j'y réponds spontanément, zéro, je suis en train de soumettre des hypothèses, puis là, ben, il y avait 125 ans de police à l'époque, là, les gens, là, c'est sûr qu'ils voulaient, puis ça, c'était tellement exact, en fait, que c'est pour ça qu'on a laissé cette scène-là. C'est vrai qu'il y avait énormément d'expérience de police sur la scène en 1975. Par contre, ça n'empêche pas qu'il y ait pu avoir des lacunes quand même. On en a vu des enquêtes bâclées. C'est pas parce qu'il y avait des gens qui avaient de l'expérience. Puis en plus, il y en a d'autres témoignages qui viennent ensuite, même de policiers de Longueuil à l'époque, qui viennent un peu questionner certaines façons de faire, certaines décisions qui ont été prises en 1975.
Ben moi,
cette scène-là elle témoigne qu'on a tout montré, on n'a pas d'orgueil.
Mais moi, ce qui m'a scié les deux jambes entre eux, puis je veux pas trop en dire parce que ça serait un punch, mais c'est l'histoire du communiqué de la police là, qui a été publié. Ça n'avait aucun bon sens.
La Sûreté du Québec.
Ouais.
Et même aujourd'hui, la Sûreté du Québec nous dit en coulisses là, par rapport à ce fameux communiqué-là, on aurait intérêt à le faire encadrer, puis à le mettre au mur et à enseigner à tous les relationnistes policiers du Québec quoi ne pas faire. C'est ça. Et même eux, ils n'en revenaient pas, là, parce qu'évidemment, ils l'avaient de leur côté aussi. Donc, quand on leur a soumis ce fameux communiqué-là, ils ne sont pas tombés des nues, là. Ils savaient exactement de quoi il était question. Puis, c'est clair que même encore aujourd'hui, ça surprenait énormément qu'on ait pu aller jusqu'à publier quelque chose comme ça en marge d'une enquête aussi importante qu'un double meurtre d'enfant.
Et la famille des victimes, bon, surtout la famille de Diane Derry a beaucoup collaboré. C'est eux qu'on voit davantage dans le documentaire que celle de Mario Corbeil. Mais eux, maintenant que c'est fait, que c'est diffusé, est-ce que tu as eu des contacts avec eux? Comment ils se sentent par rapport à ça?
Beaucoup avec la famille Derry, ils sont soulagés d'une certaine façon. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'appréhension bien avec la série. Eux, ils se sont abandonnés à nous pendant des mois et des mois. Ils nous ont tellement fait confiance, c'était excessivement touchant. Et là, on avait hâte de voir, bien sûr, qu'est-ce qu'ils allaient en penser. Ils ont reçu là, personnellement des DVD un petit peu avant la diffusion sur tout.tv. Et ils sont contents, et ça m'a soulagée, parce qu'ils trouvent vraiment qu'on a rendu, en fait, hommage à leurs enfants, ça c'est clair, dans un premier temps, en parlant, en les mettant en évidence, en revenant de façon aussi méticuleuse, je pense, sur ce qui se serait passé. Et pour eux, et je pense, j'ai une pensée tellement sincère pour la maman de Diane, c'est son anniversaire en plus, la journée où je comprends qu'elle a terminé la série. Et elle a dit, moi, maintenant, il y a des choses que je savais, il y a des choses que je savais pas et que vous m'avez apprises, mais je sais une chose, c'est que maintenant, j'ai une bonne idée de qui peut avoir fait ça, puis ça m'apaise. Fait qu'imaginez, là, comment cette dame-là a 80 quelques années, et puis moi, ça me touche beaucoup de savoir que même si on n'est pas allé complètement au bout, même si, comme je vous dis, on n'a pas passé les menottes à personne parce que, on n'en avait pas le pouvoir, j'ai quand même l'impression que ça a fait du bien. Ça leur a fait du bien, puis ça, c'est comme le plus grand cadeau là, inespéré. Là.
Ouais. Et je rappelle, le dernier soir, c'est disponible sur tout.tv. Est-ce qu'il va y avoir une diffusion à la télé par la suite?
Absolument. Ouais. Radio-Canada, en 2020, la date
est trop long.
Terminée. Mais
c'est trop long.
C'est déjà au programme, à la programmation de Radio-Canada pour la saison en fait à venir, là, oui.
Et Monique, pendant que tu es avec nous, écoute, tu es dans le domaine judiciaire depuis longtemps. Tu vas dans les palais de justice, tu rencontres, tu l'as dit, bon, plusieurs victimes. Tu as vu des criminels, des meurtriers aussi. Tu as vu à quel point, et on en a parlé ensemble aussi à Netflix, des séries sur des meurtriers. Et pourquoi tu penses qu'on a quand même cette fascination-là? On en parlait tout à l'heure avec Richard Therrien. Est-ce qu'on a un côté sombre qui sommeille en nous? Qu'est-ce qui fait qu'on aime autant en savoir plus sur ces personnes-là?
C'est fou parce que je me pose la question depuis que tu m'as écrit pour ton émission, puis je suis pas capable de répondre à cette question-là. Je sais pas pourquoi on a cet intérêt-là. Et là, j'essayais de me replonger à moi pourquoi j'avais cet intérêt-là, parce que depuis que j'ai toute petite, j'aimais les films de procès où il y avait un criminel deux côtés où on essayait de voir qui de trouver justice. En fait, là, je me souviens que j'aimais ça. Moi, j'écoutais les grands procès quand j'étais plus jeune,
aussi, ouais.
Dans les années 90. Mm-hmm. J'étais fascinée par ça. Je demandais des permissions spéciales pour terminer Fortier. Puis plus c'était lié à une histoire vraie, aussitôt qu'on écrivait là, ces faits sont véridiques ou tirés de faits vécus, ça me passionnait encore plus. J'ai l'impression qu'on aime se projeter dans une histoire, qu'on aime se trouver qui aurait pu commettre le crime, un peu comme ça se passe dans une true crime story, en fait, j'ai l'impression. Mais j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là. Pourquoi on aime tant ça? Et puis, on le sait que c'est le genre qui est le plus populaire partout à travers le monde. Ça s'atténue pas. Et si vous n'avez pas vu encore Wendy Sios sur Netflix, sur les cinq jeunes qui ont été accusés de tentatives de meurtre et de viol dans Central Park, ça, c'en est un sacré bel exemple aussi, là, tiré d'une histoire où, des années plus tard, on revient sur une grande injustice. Je pense que ça, le mot d'injustice, ça vient nous chercher. Il y a quelque chose qui est foncièrement ancré en nous, qui est attiré vers ça. Alors, ce serait mon semblant d'explication, mais continuez de fouiller parce que moi aussi, je veux la réponse.
On va continuer. Merci beaucoup, Monique Néron, d'avoir été avec nous. Journaliste et collègue à Puisqu'il faut se lever, qui est en congé de maternité présentement, mais que vous pouvez retrouver dans le dernier soir à tout.tv. Merci, ma belle Monique.
Merci à vous deux. Bonne journée.
Bye bye. Mais on n'a pas vraiment d'explication, mais il fait effectivement que manifestement, il y a une fascination. On va en avoir encore aussi. Et quand c'est bien fait, quand c'est bien monté,
oui, puis Monique, je trouve que sa réponse, je la trouve quand même complète et bonne quand elle dit on se reconnaît dans ces gens-là. Oui. C'est pour ça aussi, tu sais, quand j'ai parlé de compassion tantôt, là, puis on voudrait que ces gens-là, que leur détresse disparaisse puis qu'il y ait enfin un peu de réconfort, bien, ça fait partie de ça.
C'est notre côté humain. Richard Therrien, merci beaucoup, chroniqueur télé au Journal Le Soleil et collaborateur au 98.5.
À bientôt.